Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine avec un temps qui est un peu plus frais que ce qu'on a pu vivre la semaine dernière et le week-end dernier, parce que samedi il faisait excessivement froid. Donc voilà, David Torchala est là également pour m'accompagner. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ben oui, je suis là, c'est lundi, je suis là.
Ben oui.
Vous m'invitez. Alors je viens.
Vous voulez. C'est sympathique. Merci à vous. Bien sûr, on va parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et particulièrement d'un rassemblement de la radio. Hein.
Ah oui, ça c'est samedi. On réunit à Lourdes une grande fierté, toute la grande famille de Radio Présence.
Et puis on parlera aussi des journées du patrimoine, spécialement ce qui va se passer donc dans le sanctuaire.
Ah oui, il ne faudra pas manquer. Je vais vous en parler vraiment des visites historiques.
Alors, c'est une commune que vous aimez bien, enfin, je crois que c'était Loubajac, parce que vous y avez vécu quelques années.
Oui, c'est vrai.
Eh bien là, on va parler de la restauration, car les vitraux de l'église de Loubajac sont en très mauvais état. Et donc, il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit ben, il faut restaurer l'église, des paroissiens d'ailleurs. Et on parlera de cette belle aventure et des propositions qu'ils vont faire pour récolter de l'argent pour restaurer ces vitraux de l'église de Loubajac. Et puis, ce sera un catéchumène que nous aurons aujourd'hui, puisqu'il s'est fait baptiser à Pâques cette année, et ce sera l'invité de Mathias Terrier dans l'émission De Passage à Lourdes. Allez, tout de suite, on vous retrouve, David, pour
Présence dans la cité mariale 96.
Voilà, la chronique concernant l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, on le disait, on va débuter par un moment dont vous nous avez dit, vous êtes très fiers, c'est un rassemblement de la radio.
Mais oui, c'est samedi, il y a des temps, à l'occasion de la rentrée, de pouvoir se réunir, se rassembler. Ça, c'est propre à Lourdes, hein, de venir pour se rassembler en famille, entre amis. Ben voilà, c'est aussi le cas de Radio Présence. On a vraiment la grande joie de pouvoir ouvrir les portes de l'hémicycle. Vous savez qu'il y a un hémicycle dans le sanctuaire, là où les évêques se réunissent deux fois par an pour prendre les grandes décisions de l'Église. Et bien cette fois-ci, ce sont les bénévoles, les producteurs, les journalistes, les techniciens, tous ceux qui sont impliqués dans les assemblées aussi générales, les conseils d'administration des radios qui forment le Radio Présence, le réseau. Toulouse, Cahors, Figeac, Saint-Gaudens, tout le monde va prendre sa voiture pour se retrouver samedi matin à l'hémicycle du sanctuaire, voilà, pour un temps de travail, un temps toujours de rencontres, parce qu'il y a des départs, il y a des arrivées, et puis c'est toujours bon de se connaître, et puis ben, voilà, pouvoir parler avec toute l'équipe, où nous en sommes, où nous allons, etc. Et puis tout ce qui fait notre identité propre, hein, celle d'une radio chrétienne. Donc on va passer un bon moment.
Et c'est bien de le faire dans le cadre de la rentrée, bien sûr. Puisqu'on est rentré la semaine dernière, donc au niveau du programme de Radio Présence.
Eh ben oui, c'est ça, c'est aujourd'hui.
On sonne la rentrée, quoi.
On sonne la rentrée, voilà, avec tous les présidents de radio, avec Mgr Jean-Marc Mika aussi, l'évêque de Tarbes et Lourdes, qui nous accompagne sur toutes ces questions. Donc, alors oui, c'est un petit événement entre nous, mais en même temps, on va faire que parler de vous, on va faire que parler des auditeurs, ça c'est sûr.
Et ça c'est plutôt bien. Donc voilà pour la première actualité. Ce séminaire est donc, qui aura lieu samedi prochain concernant donc Radio Présence. Et puis arrivent rapidement les journées du patrimoine.
Ah oui, alors ça, notez bien, vraiment c'est le week-end prochain, donc c'est le samedi 20 et 21 septembre, les journées européennes du patrimoine. Elles ont lieu dans toute la France, mais alors au sanctuaire cette année, on va mettre les bouchées doubles. On va démarrer déjà le 19, vendredi 19, avec l'inauguration du nouveau centre de ressources historiques du sanctuaire. Pour ceux qui connaissent le lieu, c'est au pied du chemin de croix des Espélugues, au pied du mont des Espélugues, et bien il y a des chapelles qui ont été transformées en centre historique pour pouvoir conserver toutes les collections du sanctuaire dans des conditions parfaites pour pouvoir transmettre en tout cas ce patrimoine aux générations à venir. Donc il y a toute une transformation. Au moment où je vous parle, il y a des travaux travaux. Les travaux vont encore continuer. Et puis aussi, alors c'est un lieu de réserve hein, d'abord, donc réserve de toutes les collections. Il s'agit de vêtements liturgiques, de pièces d'orfèvrerie, de vaisselle sacrée, des vases sacrés. Il y a aussi, nous avons une collection incroyable de bannières de processions, des statuaires, etc., etc. Et puis des bibliothèques, beaucoup de choses qui sont conservées là. Il y a vraiment une belle valeur hein, historique de toutes ces pièces. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir inaugurer, bénir, évidemment, ce nouveau centre, et de pouvoir aussi accueillir du public. Donc, dans une aile du nouveau centre de ressources historiques, on est juste en face hein, de la crypte, de la basilique de l'Immaculée Conception, il y aura maintenant un nouveau lieu, d'exposition. Et donc, on aura la joie, en partenariat avec l'association du Toit du Cœur. Vous savez, ce sont ces Lourdais qui sont réunis en association pour restaurer l'église du Sacré-Cœur, la paroisse du centre-ville, et qui continue encore à rayonner à travers l'art, et qui propose une exposition qui s'appelle Gouji à Lourdes. Gouji, vous savez, c'est un artiste sculpteur, orfèvre de renom, vraiment connu dans le monde de l'art sacré, et il a fait notamment beaucoup de réalisations, mais particulièrement à la basilique Notre-Dame du Rosaire, avec tout le cœur, des commandes qui avaient été faites à l'époque par Monseigneur Jacques Perrier. Eh bien, on pourra voir certaines de ses pièces dans ce nouvel espace, et ça va être vraiment beau. Il y aura un catalogue aussi d'expositions qui sera mis à disposition, et puis aussi de magnifiques photographies d'un Lourdais, c'est Laurent Etcheverry, voilà, qui est photographe professionnel à Lourdes, qui a croqué quelques petits détails des œuvres de Gouji. Elles seront mises sur les murs, et voilà. Donc on doit ça, cette exposition très belle, en tout cas à nos amis du Toit du Cœur. Et donc le vernissage sera vendredi soir 18h30, mais ensuite l'exposition est ouverte tout le week-end pendant ces journées européennes du patrimoine.
On va peut-être rappeler les dates des journées du patrimoine.
C'est samedi et dimanche prochain, 20-21. C'est pour ça qu'il faut le noter tout de suite sur l'agenda.
Dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Voilà. Vous êtes pressé d'ouvrir, mais on a 15 jours.
On a 15 jours, mais c'est pour réserver cette date-là. Vous savez, on va aussi proposer des visites tout le week-end, les visites des trois basiliques en un seul sanctuaire. Il n'y a qu'à Lourdes pour voir ça. Et puis aussi une visite donc de ses collègues, de l'intérieur. Ce sont habituellement des archives qui sont fermées au public. On va les réouvrir pour l'occasion avec des départs le samedi après-midi, matin et après-midi, dimanche matin après-midi également. Et donc ça, il faut en profiter parce que ça, c'est plutôt rare. Donc voilà aussi les journées du patrimoine qui nous poussent à ouvrir nos portes et nos collections, et puis surtout rencontrer le conservateur, je pense à Robin Dupont, notre archiviste Nicolas Dargegène. Et alors, il y a aussi un dernier moment, et il ne faut pas le louper non plus, c'est dimanche 21 septembre à 18h, l'association du Toit du Cœur propose également un concert magnifique, le Requiem de Mozart à la basilique de l'Immaculée Conception, en entrée libre à 18h. Arrivez un petit peu avant, parce qu'à mon avis il y aura pas mal de monde, mais le Requiem de Mozart dans la basilique supérieure du sanctuaire, je pense que ça vaut le détour.
Et alors, bien sûr, on aura l'occasion de pouvoir voir ces pièces dont vous nous parlez. Et pour la saison prochaine, il y aura possibilité de voir ces pièces dans ce nouvel endroit ou pas?
Alors l'exposition sur Gouji et l'art sacré va courir jusqu'à la fin de l'année. On verra ce que l'on propose. On a déjà plein d'idées, je vais vous dire, pour 2026. Mais c'est peut-être un peu prématuré pour vous le dire. Ouais. Donnez-moi des occasions de venir vous revoir quand même. Je ne peux pas tout dire tout de suite, mais en tout cas l'avenir est aussi dans le développement de ces collections. Vous savez que l'on reçoit beaucoup de tableaux, d'œuvres d'art qui nous sont offerts au sanctuaire, et nous avons aussi beaucoup d'ex-voto, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à accueillir, hein, mais là on se projette dans des décennies hein, plus tard, pouvoir accueillir aussi des fonds de livres, etc., qui sont très régulièrement cédés au sanctuaire pour pouvoir continuer à enrichir le patrimoine de Lourdes à travers les temps, et surtout de pouvoir faire en sorte qu'il dure dans le temps. C'est pas tout de les conserver et de les garder là, il faut vraiment que ça puisse traverser les générations.
Donc, ben voilà, hein, si on a l'occasion de... On ne sait pas trop ce que ça deviendra, mais on pourra donc venir, effectivement, pendant ces journées du patrimoine. Et là, par contre, les portes seront grandes ouvertes.
Elles seront grandes ouvertes, donc ne loupez pas. Mais peut-être que la semaine prochaine, je vous redirai encore que c'est important de venir. Vraiment, ça vaut le coup parce que c'est assez unique.
Allez, on va rappeler les dates pour que les gens le notent bien. C'est le samedi
20 et dimanche 21 septembre, dans 15 jours.
15 jours, vous pourrez donc direction... le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, c'est en face de la crypte, donc un petit peu plus haut de la porte Saint-Joseph.
Voilà. Oui, voilà, mais laissez-vous conduire, venez sur le site internet du sanctuaire, vous trouvez les informations, vous venez au centre information également quand vous êtes sur place, et on vous conduit, on vous montre plus de 300 bannières de procession, des statuaires, des lustres historiques, des objets de culte magnifiques, et puis même aussi on pourra voir les anciennes béquilles qui étaient accrochées à la grotte.
À la grotte, effectivement. Voilà. Ça vaut le coup de venir alors à ces journées de patrimoine 2025 au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci David. On s'aperçoit que vous avez toujours des choses à dire. Il se passe toujours quelque chose au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Et ça, c'est vrai. Il se passe toujours quelque chose. La semaine prochaine, ça sera les 40 ans de Lourdes Cancer Espérance. Voilà. On va voir la vie en vert et blanc. Ça va être magnifique.
En vert et blanc. Et exactement. Et puis, on reparlera des journées du patrimoine. Et puis après, rapidement, il y aura le rosaire.
Ah oui, pèlerinage du rosaire, le plus grand pèlerinage de l'année. Je crois qu'ils s'annoncent, ils sont déjà 17 000. Ça fait beaucoup de monde.
Un grand merci. Et dans les journées du patrimoine aussi, bien, et ces jours-là sont aussi consacrés à une opération que va mener une petite commune à côté de Lourdes, Loubajac. On rappelle quand même, les personnes que j'ai invitées pour nous parler de la restauration des vitraux, nous rappellent quand même que le premier miraculé à Lourdes,
c'est une Loubajacaise, Catherine Latapie, évidemment, et donc oui, et puis même c'est le premier pèlerinage, voilà, le premier pèlerinage, et nous avons toujours la bannière dans nos collections, la bannière de ce premier pèlerinage à Lourdes. Vraiment, chapeau aux habitants de Loubajac, voilà, de se mettre au chevet de leur très belle église de village. On peut que les encourager.
Voilà, et on en parle dans un instant.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non!
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence, à Bagnères-de-Luchon.
C'est un beau projet dont on va parler aujourd'hui dans notre émission, celle de restaurer les vitraux d'une église pas très loin de Lourdes, sur une très belle commune qui s'appelle Loubajac. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association ASPL, l'association pour la sauvegarde du patrimoine loubajacais. C'est ça, j'ai bien dit.
Oui, Loubajacais.
Et j'ai avec moi aujourd'hui la présidente de cette association, Nadine Vives. Bonjour.
Bonjour.
À côté de vous, il y a une membre qui s'appelle Catherine Dalou.
Bonjour.
Et puis également Danielle Van Ven, vice-présidente. Je l'ai bien dit.
Très bien, merci. Bonjour.
Et puis moi, voilà, j'ai une préférence parce que il m'a fait à manger et on mange très très bien. C'est Patrick Unasso Biscay qui sera aussi voilà, vous allez donner de votre personne en faisant un repas.
Je vais participer également à ce petit projet, effectivement. Bonjour à tout le monde.
Alors, on va rembobiner un petit peu et on va parler de la genèse de cette association, celle de la restauration, tout simplement, des vitraux de l'église de Loubajac qui ne sont pas en bon état.
Oui. Eh bien, tout est parti un jour d'obsèque à Loubajac. Et c'était un hiver, beaucoup de mauvais temps. Et on s'est rendu compte, les personnes qui étaient à la chapelle Sainte-Catherine, qu'on prenait la pluie. Et donc là, on a commencé à chercher d'où ça pouvait provenir. Et en fait, c'était les vitraux qui étaient troués. Et on a commencé à inspecter tous les vitraux. Et en fait, beaucoup de vitraux étaient troués. Et donc, on a dit, il faut faire quelque chose, il faut restaurer. Et on a pensé au loto du patrimoine. Mais pour déposer le dossier, c'était un peu court. Donc et puis on a vu qu'il fallait quand même être fédéré en association. Donc on a décidé de créer cette association.
La SPL. Hein.
La SPL, c'est de là qu'est partie.
Et alors vous pouviez avec être éligible à ce loto du patrimoine parce que l'église de Loubajac est classée.
Oui, elle est classée.
Et elle est classée
parce qu'elle a une fresque. qui a été découverte dans les années 80.
Mais qui date du 15e siècle. Donc voilà. Et donc, comme elle est classée, vous auriez pu prétendre donc à ce retour du patrimoine.
Mais les vitraux ne font pas partie du mobilier de l'église, donc ça ne rentre pas dans le, dans les bâtiments de France. Donc c'est pour ça qu'on peut s'occuper de la restauration, on a la liberté de choisir les artisans.
Et alors, c'est un avantage quelque part hein, aussi, oui. Parce que lorsque c'est classé et que les bâtiments de France rentrent dans la danse...
Oui, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long.
Voilà, beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Donc, vous avez... Voilà, c'est pas facile de savoir qui restaure des vitraux. Donc, vous avez commencé, vous êtes parti sur la région bordelaise. Et là, vous avez eu surprise
par
de...
une connaissance qui m'avait donné cette adresse. Mais bon, le devis était... très cher, exorbitant même. Et après, nous avons eu rendez-vous avec Mme Castillo, qui, elle, nous a donné une adresse sur le département.
Sur mon région.
Sur mon région. Et donc là, le devis était divisé par trois.
D'accord.
Donc, et puis c'était des personnes... on a adhéré avec ces personnes, elles étaient très prévenantes.
Parce qu'elles sont venues visiter, bien sûr, pour faire le devis.
Elles sont venues.
Et elles ont vraiment, vous m'avez expliqué qu'elles avaient pris le temps.
Ah,
elles
oui.
avaient été très soigneuses.
Oui, oui, oui.
Et vous-même, vous avez fait la poussière.
Oui.
Elles ont fait la poussière. Et vraiment, elles ont même revissé. Enfin, vraiment, des gens très consciencieux.
Oui, et ils nous ont bien expliqué que les vitraux étaient en très mauvais état, une grosse tempête, tout allait dégringoler.
Voilà, et de ce fait, l'église se trouve en péril alors qu'elle cache des œuvres magnifiques. Alors effectivement, on a la fresque du 15e siècle, mais on a aussi des peintures du 17e et des bas-reliefs du 18e. Elle est vraiment superbe, on a d'ailleurs refait un livret en début d'année. Et moi qui vais à l'église et qui j'ai été subjuguée, j'ai redécouvert mon église de village. Quoi. Vraiment, elle cache des trésors incroyables. Et donc, comme le disait Daniel en préambule, elle a été visitée tout cet été. Les gens ont été époustouflés, notamment les personnes qui sont venues pour les travaux des vitraux.
Absolument.
Ils
sont tombés vraiment. Amoureux, je dirais, de cette église, quoi, quand ils ont vu...
On sent qu'ils ont une sensibilité de l'art. Enfin,
ce sont des passionnés.
Ils connaissent très, très bien.
Mais tout ça a un coût, et il faut le financer. Alors, même si la mairie, bien sûr, va mettre la main à la poche, puisque c'est un bâtiment communal, elle ne pourra pas assumer toute la somme. Donc, vous êtes organisé en association, vous allez... organiser plusieurs manifestations pour récupérer des fonds, dont un repas dont on va parler dans quelques instants, et puis aussi d'un très beau concert à l'approche de Noël avec les chanteurs montagnards de Lourdes. On donnera bien sûr toutes les dates. Vous êtes quand même faire partie de l'équipe paroissiale.
Oui, absolument. C'est tout est fédéré autour de l'église et de la paroisse. Hein. Vraiment, c'est l'équipe paroissiale qui a été sensibilisée et un collectif a été créé.
Absolument,
autour de l'église et autour de la paroisse. Oui.
On voulait aussi créer cette association pour être indépendant et de la mairie et du diocèse. On voulait vraiment pas être bloqué d'un côté ou de l'autre.
Oui.
Parce que en étant en contact, si on avait créé quelque chose avec le diocèse, ça nous bloquait pour un certain nombre de subventions.
Oui, avec la séparation de l'Église et de l'État.
Tout à fait.
Oui.
Donc, on a préféré monter une association indépendante.
Voilà. De membres, de personnes laïques.
Hein. Tout à fait.
Mais c'est vrai que une église dans un village, c'est le repère historique, c'est le repère aussi de la vie d'un village avec ses joies, hein, les baptêmes, les mariages, mais également malheureusement ses peines avec les enterrements. Et on aime bien se retrouver aussi dans ce bâtiment.
Oui, tout à fait. Ça rythme une vie de village, et c'est comme vous le dites. On se retrouve pour les bons et pour les moments plus difficiles. Et puis, on se retrouve aussi le week-end autour de
l'Eucharistie.
Autour de l'Eucharistie. Mmh.
Et donc, important, on voit hein, des exemples en France, un peu partout, et puis dans le département des Hautes-Pyrénées, j'ai cet exemple de Laïté-Toupière, où tout le village s'est retroussé les manches pour carrément restaurer entièrement l'église paroissiale, et qui a fait en plus que ce village est rené vraiment parce que les gens se sont connus, et je pense que petit à petit, vous aussi, vous allez vivre des choses avec des gens qui sont peut-être éloignés de l'église, mais qui vont venir vous soutenir, et voir aussi la richesse. Voilà, c'est une église qui a une histoire et il y a des choses à voir aussi. Hein.
Absolument, absolument. Mmh. Elle est très riche et elle représente un joli patrimoine et vraiment, c'est une belle église à visiter, un bel endroit à découvrir.
Et d'ailleurs, donc, tout cet été, vous avez ouvert l'église le samedi matin.
Voilà. Oui, avec quelqu'un de garde tous les samedis matins de 9h à midi. Et voilà, les gens sont venus. Samedi dernier, il n'y a eu personne, mais les autres samedis, il y a toujours eu quelqu'un voilà, pour venir nous rencontrer et admirer vraiment les œuvres de l'église.
Ouais. De cette église qui n'est pas très loin de chez nous. On invite d'ailleurs les gens qui nous entendent et bien de venir aussi à votre rencontre. On donnera les numéros de téléphone dans quelques instants. Donc, voilà, vous avez fait le constat. Il faut réparer ces vitraux. Vous avez trouvé une société.
Oui.
Maintenant, il va falloir payer. Et pour payer, vous allez organiser plein de manifestations.
Voilà. Deux journées du patrimoine. Et je voulais préciser aussi qu'à Loubajac, la première miraculée de Lourdes, elle est de Loubajac.
Donc, il y a une histoire.
Il y a une
entre...
histoire aussi, voilà. À Loubajac.
Premier miracle à Lourdes, elle était de Loubajac.
C'est Catherine à tapis.
Voilà. Et on doit beaucoup aussi aux premières personnes qui sont venues à la grotte.
C'est le premier pèlerinage.
C'est le premier pèlerinage, oui. Hein, il venait de Loubajac.
Oui, le premier pèlerinage à la grotte, c'est Loubajac.
Il y a une histoire entre Lourdes et Loubajac. Oui. Et donc, il faut prendre soin de cette église.
Voilà. Et oui, alors on va préparer deux journées, le 20 septembre.
Dans le cadre des journées du patrimoine qui se dérouleront, voilà. Donc le 20 et 21 septembre.
Voilà. Bon, l'église pourra être visitée pendant ces deux journées, enfin le dimanche. Et le 20 septembre à 20h30 à l'église, il y a le concert avec le groupe Voxitanie. Le lendemain matin à 9h30, la messe. Ouais. Et à 10h30, le marché gourmand et artisanal, qui se déroule jusqu'à 16h.
Toujours autour de l'église, hein ?
Toujours autour de l'église.
D'accord.
Sauf en cas de mauvais temps, où nous nous replierons à la salle des fêtes. Voilà. Et à midi, le repas servi par Patrick, préparé par Patrick, et qui sera à 15€ à partir de midi.
Alors, on va se tourner vers le cuistot, hein. Patrick, vous allez nous proposer un beau repas. Mm-hmm. Alors, vous allez aussi travailler gratuitement, là, parce que là aussi, vous voulez mettre à contribution votre talent culinaire et préparer un très beau repas. Moi, donnez-le. Il ne faut pas me donner à cette heure-ci le menu, parce que ça met vraiment l'eau à la bouche. Et quand on connaît la qualité de votre cuisine, vraiment, j'incite vraiment les auditeurs à venir. Si vous voulez passer un bon moment, en plus, vous allez aider une belle œuvre, hein, la restauration, et surtout aussi bien manger, je vous conseille de réserver, et les places ont envie de partir. Hein. Mettez-nous l'eau à la bouche, Patrick. Qu'est-ce que vous allez nous préparer?
Alors, c'est gentil. D'abord, c'est vrai que j'ai répondu à la sollicitation de Daniel et Christian, avec qui je suis ami de longue date, quand ils m'ont proposé, enfin, quand ils m'ont demandé effectivement de participer à cette manifestation, ouais, mais j'ai répondu de suite favorablement, déjà par notre amitié, et puis aussi parce que je suis quand même assez sensible aussi à ces préservations des patrimoines, où justement je suis toujours un peu peiné, moi, de voir ces églises qui sont transformées en hôtel, en machin, enfin, il y a toujours, et ça fait toujours, parce que c'est quand même notre histoire, moi je suis quand même assez sensible à cette cause, donc de suite j'ai répondu favorablement. En plus j'avais l'agenda de libre, donc il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Et donc on a mis en place ça, donc on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, c'est gracieusement que j'apporte ma contribution pour que ça puisse évoluer aussi. Donc dans le menu, donc nous allons faire alors à 15€, comme vous le dites, préciser, des farandoles d'amuse-bouche. Alors des mini faritas à la plancha, des salades de fenouil pamplemousse avec une mousse d'avocat, ensuite une mousse de citron et crevettes au caramel d'orange, ensuite un produit pur basque, bon, faut pas renier ses origines non plus. C'est escalope.
Oui, escalope. Votre nom, une Sky, effectivement, on vous localise vite. Hein.
Voilà.
Parce que j'ai habitué à relocaliser les gens avec leur nom de famille. Les Bretons, les Basques, ils les repèrent de suite. Hein.
Je le place aussi, voilà. Le petit. D'autant plus que j'ai mes cousins basques, puis ce sera le pèlerinage de Bayonne. Le pèlerinage de
Basco-Béarnais.
Donc ils seront présents, là, j'ai la famille qui sera présente et qui m'ont fait avoir ce produit pur basque, l'escalope de cochon de lait, qui est mariné.
Le cochon de lait serait basque.
Non, alors le cochon de lait, non, mais par contre, l'escalope de cochon de lait ici ne se fait pas. Et donc je l'ai trouvé au Pays basque et c'est mariné avec forcément un petit peu de piment d'Espelette. Ben, donc je pense que c'est un très, très, très bon produit. Je l'ai découvert quand j'étais au cours d'un séjour là-bas. Et effectivement, avec ces légumes d'été, donc escalope de cochon de lait mariné avec ces légumes
d'été. Voire même d'automne.
Et d'automne, pardon, oui, d'automne. Et donc,
c'est la fin de l'été. Hein.
Oui, voilà. Il y aura un mix des deux.
Le 21, donc ça sera pile, voilà, été, automne. Donc on mettra un petit peu de tout. Fromage et tartelette aux myrtilles, parce que les myrtilles...
Faites maison.
Tout sera fait maison, effectivement. Donc avec l'aide de tout le monde. Nous...
Et le café pour 15 euros.
Et le café.
C'est vraiment un repas qualitatif, pas cher.
Parce voilà.
Aujourd'hui, quand on sait les produits, eh bien voilà, vous obtenez, vous avez arrivé aux fournisseurs aussi à essayer d'avoir des prix compétitifs.
Pour la cause aussi. Et puis voilà, il y aura également un menu enfant, nuggets frites avec des tartes aux pommes pour les enfants.
Pour 10 euros.
Pour 10 euros pour les enfants.
Donc bien sûr, pour réserver ce repas, donc ça, le repas, il aura lieu le
21 septembre à midi.
D'accord. Donc là aussi. Autour de l'église, si oui. Tout va bien. Et sinon, ben, repli à la salle des fêtes. Oui. Vous tablez, vous me disiez, entre 120 et 150 personnes. Hein.
Voilà. Oui. On l'espère.
Ce serait bien, oui. Ce serait bien.
Il y a déjà 50 inscrits, je crois.
Oui, il y en a
plus ça, oui. Oui.
Donc, voilà.
Depuis le début de la semaine, on a ouvert.
Oui. Donc, il faut se presser. On va donner déjà deux numéros pour réserver. Hein. C'est le 06 44 94 71 98, 06 44 94 71 98, et également un autre téléphone, c'est le 06 08 57 38 95, 06 08 57 38 95. Alors ce week-end-là, donc du 20 et 21 septembre, il y a un concert, donc
le samedi
qui est gratuit.
10 euros l'entrée.
10 euros l'entrée, donc là aussi, ben, c'est au profit hein, de la restauration.
Oui.
Et puis le lendemain, donc il y a le marché gourmand, marché autour de l'église.
Et puis des producteurs de sorbet, de fromage, fabricants de bijoux, d'objets en bois. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Des confitures,
oui, du miel.
Il y a 10 ou 12 commerçants qui seront là.
Voilà. Et puis donc à midi, donc ce repas. Qui clôturera donc ce week-end.
Voilà, tout à fait.
Il y aura la messe.
La messe à 9h30.
À 9h30. Donc
chantée par la chorale de Julos, oui. Avec un regroupement de quelques paroissiennes des quatre villages
de votre paroisse.
Voilà.
Et ça sera animé la journée aussi par trois personnes, accordéon et.
Trois accordéons, oui.
C'est vraiment un week-end de fête autour de l'église. Hein,
voilà,
et autour de cette restauration. Hein. 20 et 21 septembre, notez bien, c'est à Loubajac que ça se passe. On redonnera les numéros de téléphone. Et puis, on va aussi parler donc, de ce concert que vous allez organiser un petit peu plus loin. Hein. Ce sera le 6 décembre avec les chanteurs montagnards de Lourdes. Ce sera un concert de Noël. Oui.
Voilà, qui sera aussi à 10 euros d'entrée. Et
il faut faire beaucoup d'entrées.
Voilà.
On vous attend tous.
Venez nombreux. Voilà.
Et c'est vrai
aux deux concerts.
Un concert de Noël. Voilà, donc si vous voulez, si vous ne pouvez pas assister à quoi que ce soit, mais que vous voulez aider donc, cette association, c'est l'ASPL, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine loubajaquais, et surtout la restauration donc, des vitraux de l'église. eh bien, vous pouvez contacter cette association, la SPL. Merci beaucoup, Madame la Présidente Nadine Vives.
Avec plaisir, merci à vous.
Et puis également, vous, Daniel Van Ven, vous êtes la vice-présidente.
Merci.
Et puis Catherine Dalou, membre actif, on le voit aussi. Il faut des titres, effectivement, dans une association.
Tout
il faut
fait. Toujours,
mais j'ai l'impression que vous êtes...
Voilà. Ce ne sont que des titres.
Voilà, oui, que des titres, mais que vous êtes tous bien motivés. On remercie également Patrick Venasso-Biscay, effectivement aussi, d'être le cuisinier pour cette belle œuvre.
Merci à vous. Merci.
Et puis le repas est à 15 euros, on l'a dit, vraiment qualitatif, et un menu enfant à 10 euros. Il y aura un concert de Vox Vitani le samedi 20, voilà, et puis le repas donc le dimanche avec le marché.
Ouais, je voulais juste dire que si les personnes veulent donner, procéder à des dons, il y a la déduction fiscale aussi.
Ah, vous y avez
droit. Ils peuvent bénéficier d'une déduction Absolument. Fiscale.
Oui. Voilà. Voilà. Oui.
Et je voulais préciser aussi que après la messe, il y aura la bénédiction de la salle Catherine Latapi. Oui. C'est l'ancienne salle de catéchisme qu'on a l'équipe paroissiale a restaurée, et du coup, on en profitera pour faire bénir et on l'appellera salle Catherine Latapi.
Pourquoi voilà. Catherine Latapi?
Première miraculée.
Voilà.
De Lourdes. Voilà.
Et vous vouliez lui rendre hommage à travers cette belle salle.
Tout à fait.
Merci beaucoup, mesdames. Et puis, voilà, direction Loubajac. Vous êtes en train de tout restaurer à Loubajac. La nouvelle salle, les vitraux, c'est un village neuf qu'on va voir d'ici quelques années. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Et puis, on sera là, bien sûr, pour vous soutenir et faire des rappels, bien sûr, pour vous aider à la restauration de ces vitraux. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, même si vous habitez du côté de Toulouse, de Cahors, de Figeac, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un petit don, ils seront, bien sûr, les bienvenus et bien employés, puisque ça sera pour la restauration d'une église. Merci beaucoup.
Merci à beaucoup.
Radio Présence dans la Cité Mariale 96.
Quelle belle initiative, et on salue encore toutes ces personnes qui s'engagent pour la restauration de cette église. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rentrer en contact avec eux, vous le faites bien sûr, et si vous pouvez aider, eh bien écoutez, voilà, cette église sera magnifique après restauration. On va faire un point sur l'actualité puisqu'il est tout juste 12h passées de 31 minutes.
Bonjour. Deux départements des Pyrénées touchés par deux séismes ce samedi. Il était 6h du matin quand une secousse s'est produite dans le secteur des communes de Beaudéan, Hyette, Campan, Esch et Asque. La magnitude était de 1,7 sur l'échelle de Richter. Dans l'après-midi, vers 14h30, une seconde secousse de 3,6 a été ressentie dans le secteur d'Oloron, Sainte-Marie. Ces deux séismes n'ont pas fait de dégâts. L'INSEE Occitanie vient de publier les derniers indicateurs économiques de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. En 2024, l'activité de la filière aéronautique et spatiale mesurée par le chiffre d'affaires progresse de 7%. La progression est continue depuis 4 ans, mais le chiffre d'affaires n'est toujours pas revenu à son niveau de 2019. Malgré cette hausse de l'activité, l'emploi dans la filière marque le pas en 2024. Il progresse de 0,4%, soit un net ralentissement par rapport aux années précédentes. En effet, la dynamique de l'emploi dans les établissements industriels reste positive, mais l'emploi fléchit dans les activités informatiques de la filière. En 2024, un emploi de la filière sur 4 est occupé par une femme. 2025 ne sera pas une année prospère pour la culture de la mirabelle en Aveyron. La faute à la météo de cet été. Sa culture a connu beaucoup de dégâts dus au changement rapide de température, mais aussi à la canicule et aux orages de grêle. Un producteur de mirabelle a perdu jusqu'à 25 tonnes sur 30, un phénomène qui a débuté il y a plusieurs années maintenant. Bilan de l'été 2025 dans les domaines NPI. Les vacanciers à la recherche de nature, paysages, activités sportives et de fraîcheur ont été encore très nombreux cet été dans les domaines de montagne NPI. C'est ainsi qu'au 31 août, les 8 domaines du regroupement que sont Peyragudes, Pio, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luzardidène, Cotteret, Gourette et la Pierre-Saint-Martin ont enregistré 239 042 passages aux remontées mécaniques, un résultat en hausse de 8% par rapport à la moyenne des trois dernières saisons estivales et de 4% par rapport à l'été 2024. Cahors s'apprête à vivre une nouvelle année culturelle riche en émotions et en découvertes. La programmation 2025-2026 promet une saison éclectique où les arts vivants seront à l'honneur. Une programmation qui invite au partage et à la découverte. Le théâtre de Cahors a à cœur de proposer une programmation qui réponde aux attentes du public en proposant des spectacles variés et de qualité. Cette année encore, la programmation s'annonce riche en surprises et en émotions avec des thématiques fortes.
Et un grand merci à Eric Leclerc de nous avoir présenté l'actualité de la mi-journée. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Il est catéchumène, il s'est fait baptiser à Pâques de cette année. Il était de passage à Lourdes et c'est l'invité de Mathias Terrier, il s'appelle Raphaël Pointier.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité, notre témoin dans cette émission est Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
À 20 ans, on peut dire que votre vie bascule, peut-être dans une nouvelle ère, une nouvelle dynamique. Vous avez été baptisé le 19 avril 2025.
C'est ça.
Félicitations.
Merci beaucoup.
On est très heureux pour vous. Vous allez nous raconter ce parcours.
Oui.
Comment vous en êtes venu là? Alors même que on peut dire que vous n'avez pas eu de transmission familiale sur ce terrain du baptême ou de la
foi catholique. J'étais pas prédisposé à arriver à la conclusion de me faire baptiser, c'est sûr.
Vous voyez plein de signes dans votre vie. Vous nous direz aussi comment vous vous sentez guidé quelque part. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous vous sentez bien dans vos baskets? Vous faites quoi dans la vie?
Honnêtement, je pense que c'est depuis très récemment que je peux dire que je vais franchement bien. C'est un sentiment de paix. Évidemment, la foi est quelque chose qui se travaille en continu. Mais comment dire, ce travail de foi m'a donné vraiment un confort, une paix intérieure que je n'ai pas trouvé, disons, dans ma vie pré-catéchuménat, en tout cas, on peut le dire. Et j'avais besoin en tout cas d'ordonner cette vie parce que je sentais que la société nous amène vers une vie un peu désordonnée et ça m'a apporté vraiment un confort, une paix.
Donc vous vous sentez bien?
Oui.
Vous êtes opticien?
Oui, c'est ça.
Bien dans votre métier?
Je suis bien dans mon métier, j'ai trouvé une manière en tout cas d'aimer mon métier encore plus.
C'est-à-dire?
Durant mon parcours de catéchuménat, j'ai mon accompagnateur, Antoine Calapier, qui m'a conseillé le parcours Zaché. C'est quelque chose d'assez connu. Et il y avait un épisode qui m'a beaucoup intrigué, qui parlait du fait d'être acteur de la création. C'est vrai que dit comme ça, pour quelqu'un qui est fraîchement dans l'église, je comprenais pas trop la question. Et en fait, ça a pris tout son sens dans l'idée de trouver un sens à son métier, notamment, et même à comprendre comment les autres personnes peuvent être acteurs et actrices de la création. Donc moi, ça peut être avec une activité en dehors de magasin, sage-cabinet, en tant qu'opticien. Ça peut être en allant s'occuper de personnes en situation de handicap, comme de seniors.
C'est-à-dire vous allez leur régler la vue, les lunettes.
C'est ça. Sur du temps libre, mais je trouve que, enfin, ça a donné vraiment un sens à mon métier. Peut-être qu'un jour, j'ai pas pour vocation de vivre de ça parce que j'ai aucun aspect financier avec ça. C'est ce qui m'a notamment, ça a contribué à ma paix intérieure. Mais ça m'a beaucoup aidé justement à aimer mon métier. Parce qu'un métier notamment de commerce, des fois, ça peut être compliqué d'être en phase avec ce métier dans le sens où on doit à la fois être humain, mais penser aux commerçants. Et c'est vrai que j'ai plus l'approche humaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études après les études d'opticien en allant dans la santé, parce qu'on se rapproche plus du côté humain du métier. Et voilà.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en paix, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les éléments de votre parcours? À 20 ans, vous diriez que finalement, heureusement que cette idée du baptême a surgi dans votre existence pour remettre de l'ordre. C'était désordonné à ce point avant?
On peut dire que c'était assez désordonné, effectivement. Disons que j'ai eu la chance dans des moments de solitude où, enfin, j'ai été indépendant assez jeune et j'ai eu le réflexe de penser à Dieu, de prier, alors même que je n'étais pas baptisé et que on m'avait jamais, j'ai jamais fait de catéchisme, etc. Et je me suis dit, mais pour que ça vienne instinctivement, enfin, ça m'avait déjà donné des pistes de, ça peut pas venir de nulle part. Et suite au décès de mon grand-père, j'ai eu un vrai déclic qui m'a poussé le soir même à aller à l'église et j'ai rencontré les personnes qui géraient le catéchuménat.
C'est votre grand-père qui vous avait transmis quand même quelques rudiments de la foi.
Bah, disons que il m'a pas éduqué énormément là-dessus, mais en tout cas il m'en a parlé parce que mon grand-père étant espagnol, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en Espagne. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui l'importait beaucoup, mais il n'avait pas la volonté de l'imposer. Et je pense que c'est là que j'avais déjà compris un peu le côté de, on sème des petites graines dans la tête des personnes. Par exemple, je pense à ma petite sœur Cassandra qui n'est pas baptisée et bah rien qu'en parlant tout à l'heure, je l'ai appelée en étant devant Lourdes, etc. Je lui parle de comment on s'occupe des malades, etc. Et je pense au fait que c'est des petites graines qui, après, ça sera à elle hein, et sa foi intérieure de les faire germer. Mais on m'a planté ces petites graines et je les ai fait pousser au moment où je l'ai senti. Voilà.
Donc on verra aussi tout à l'heure ce que vous vivez à Lourdes, parce que c'est la première fois que vous venez en pèlerinage à Lourdes. Le catéchuménat a duré une année et demie.
C'est ça.
Donc c'est un temps durant lequel vous aviez essayé de comprendre si ce chemin était le bon pour vous, apprendre les rudiments de la foi, vous plonger dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là, Raphaël? Une Église vieillissante, rabougrie, parce que c'est l'image qu'il y a parfois, hein, et qui peut-être est justifiée d'une certaine façon.
Enfin. Ce qu'on m'avait raconté de l'Église, mais même des personnes étant catholiques hein, qui allaient à l'église, etc. Je suis dans une ville qui s'appelle Neuilly-sur-Seine où on me disait ah là-bas il y a que des têtes blanches. Et au début j'avais pas compris ce que c'était des têtes blanches. Et j'avais compris après qu'il parlait de personnes âgées
qui sont grisonnants au niveau des tempes et parfois même plus. Oui.
C'est ça. Et ouais. Au final bah je me suis rendu compte qu'il y avait une mixité dans l'âge assez impressionnante. Et il y a notamment un système hors été où il va y avoir plusieurs messes. Par exemple, il y a une messe qui est plutôt dédiée aux personnes assez jeunes, où il y a, par exemple, des instruments de musique, etc. Parce que les enfants font beaucoup de bruit, donc ils aiment bien un peu le côté instrument, où du coup, les jeunes parents y vont. Après, on va avoir les messes traditionnelles, 11h, 19h, et même des repas qui s'organisent après les messes, entre, par exemple, 18-25 ans, 25-35 ans, ou même une plus large gamme d'âge. Et du coup, ça a été un peu un cliché dont j'avais peur, dans le sens où j'avais peur d'avoir un décalage avec les têtes blanches, disons. Et au final, ça n'a pas été le cas.
Ce que vous découvrez aussi, c'est le catéchisme de l'Église.
Oui.
Parce que lorsque la personne qui vous accompagne, c'est Antoine, je crois.
Oui, c'est ça.
Vous dit « lis ça ».
Ouais, bah, il savait que il m'avait prévenu que c'était quelque chose de costaud parce que, c'est pas quelque chose qu'on conseille à beaucoup, enfin, je suis une des rares personnes, j'en connais pas beaucoup
pour commencer
par ça.
Peut-être qu'il sentait que vous étiez exigeant et que vous aviez besoin
j'ai une approche.
Tout ce corpus,
c'est ça. C'est venu instinctivement, j'ai quand même une approche un peu intellectuelle, rationnelle, même si c'est quelque chose qu'on peut trouver d'irrationnel, de la foi. Et, j'avais besoin de ce cadre dans notamment la lecture. Et je trouvais que le catéchisme de l'Église catholique, notamment la doctrine sociale de l'Église, nous donne un cadre assez, c'est vraiment top. Si on a le cerveau solide et qu'on a un peu de temps, franchement, c'est top parce que ça, j'ai l'impression que ça a vraiment remis ça m'a fait une page de A à Z de quel cadre se donner et comment je veux évoluer, quel point je veux travailler, etc.
Donc ça a été tout ce chemin que vous parcourez. Vous vous sentez bien tout de suite dans l'église, dans une église. En fait, c'est ça aussi que vous ressentiez.
Alors il y a le côté beaucoup de sentiments. Je ressens vraiment la famille, l'église comme une famille. Ça m'a vraiment, par exemple, mon parrain, je pourrais clairement le considérer comme une figure limite paternelle. Il m'a beaucoup apporté.
C'est Antoine qu'on salue.
C'est ça, Antoine Clapier que je salue. Et même le côté frère et sœur. C'est vrai qu'on entend beaucoup quand on est extérieur de l'église, frère et sœur. On comprend pas trop parce qu'on pense nous à notre famille. Pourquoi ils disent frère et sœur? Et en fait, on est réunis sur un même socle. Et c'est les relations les plus saines que j'ai jamais eues de ma vie. Parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de malsain qui vient dans la démarche de se faire, par exemple, baptiser ou qui vient à la messe toutes les semaines, même des fois tous les jours, etc., qu'on rencontre comme ça dans l'église. On s'apporte mutuellement et je ressens honnêtement cette approche de frère et sœur. Et je me plais vraiment dans cette idée-là.
Donc lorsque vous commencez ce chemin, vous avez déjà le réflexe de prier, vous êtes déjà en attente, tout est ouvert au fond pour que vous fassiez toutes ces étapes, vous les accomplissiez les unes après les autres.
Bah, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est chacun a sa manière de prier. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a des personnes qui ont déjà des horaires pour prier, etc. Et moi, là où j'avais beaucoup de mal, c'est pour prier, fréquemment. J'avais l'habitude de prier quand j'avais besoin de me livrer, mais que ça soit dans la joie comme dans la tristesse. Parce que c'est important, faut pas prier juste pour dire « Ah, je suis triste », etc. Non, faut remercier, etc. J'ai pu apprendre, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a honnêtement... un an de catéchuménat, c'est déjà assez court, hein. Ça va même prendre 2 ans, même plus, pour des personnes qui n'ont pas forcément un socle de base. Parce que c'est important d'avoir des bases solides, de faire un choix en toute conscience. Et j'ai appris à prier. Par exemple, j'y pensais pas forcément, mais moi, ce qui m'a donné beaucoup de soutien pour prier fréquemment, c'était de prier dans... Enfin, les gens ne le voyaient pas, mais je priais dans le métro en allant au travail. Le matin, parce que comme je travaillais beaucoup, c'est vrai que le soir, je rentrais, j'étais lessivé, je dormais. Le lendemain, je me réveillais, métro, boulot, dodo. Et au final, j'avais trouvé ma joie, ma paix en priant... En intellectualisant la prière en silence. Et maintenant, je la fais à voix haute, etc. Ça, c'est, on grandit, on s'adapte un petit peu. Mais c'est pas, je suis pas arrivé et je savais direct prier, parce qu'on m'a quand même donné, par exemple, remercier. J'avais plus l'habitude de remercier que de demander de l'aide. Enfin, de l'aide, en tout cas,
d'avoir un peu de lâcher prise et dire ça. J'ai besoin d'être aidé, accompagné. Ouais.
J'avais du mal à me plaindre, c'est bête. J'étais tellement reconnaissant envers déjà Dieu de la paix qu'il m'apportait que je me sentais mal de me plaindre pour des petites choses qui pouvaient arriver comme des grandes. Et au final, on se sent tellement bien quand on a ces deux aspects un peu balance de je fais l'état de ma journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? De quoi j'ai pas été fier? Comment m'améliorer, voilà.
Merci Raphaël de rester avec nous. On marque une pause dans cette émission et puis juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, vous qui avez reçu le baptême, donc cette année 2025, le 19 avril, en l'église Saint-Pierre.
C'est ça.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre.
Paroisse Saint-Pierre. À tout de suite.
À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nous sommes avec Raphaël Pointier. Raphaël, vous avez reçu le baptême et on peut dire que ça, c'est un changement de vie pour vous.
Oui.
Alors, ce changement de vie a été inauguré d'une certaine façon dans toute la période catéchuménale. La question qu'on se pose, vous qui êtes même pas recommençant, qui êtes converti, qui avez même cette fraîcheur du converti, comment ça vous lie à ceux que vous connaissiez, à votre entourage, ou comment aussi ça vous a décalé d'une certaine façon? Est-ce qu'on vous prend pour un drôle d'individu qui rentre dans un parcours incompréhensible?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de... En tout cas, par exemple, des amis que j'ai qui sont assez jeunes, qui ont mon âge, donc une vingtaine d'années, il y a un peu une vision un peu rustique, un peu moyenâgeuse des fois quand on parle de religion. Enfin, en tout cas, dans l'idée de croire est moins compliquée à assimiler pour beaucoup de personnes. Mais par contre, le côté d'aller à la prière, par exemple, tous les dimanches.
Aller à la messe tous les dimanches.
Aller à la messe tous les dimanches.
Vous y allez tous les dimanches.
Tous les dimanches. Je trouve que c'est un indispensable. En tout cas, je conseille à tout le monde de le faire. même des choix plus compliqués du style par exemple une vie de chasteté qui est on l'oublie mais c'est quand même quelque chose d'assez central au final et je pense qu'il y a un vrai décalage, ça les a un peu choqués mais en même ça les a à la fois choqués et en même temps ils se sont dit ça doit forcément être un hyper important pour Raphaël, pour un tel, etc., pour faire cette démarche là de changer j'ai changé sur beaucoup d'aspects de ma vie.
Mais tout de même, Raphaël, vous avez quitté votre petite amie la veille de la Semaine Sainte, c'est ça?
Oui.
Ça pose question. On se dit, mais si son chemin vers le baptême rompt les relations avec son entourage, il se passe quelque chose qui peut être interprété comme négatif.
J'avais un peu la prétention, l'orgueil au début de me dire, je suis quelqu'un de plutôt. Je pêche pas beaucoup, dans le sens où je suis quelqu'un d'assez sage, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un pêcheur comme tout le monde et je pêche sur beaucoup de choses. Et j'avais cette vision de vie désordonnée. Et j'ai eu, par exemple, notamment dans la vie de couple, un réel décalage. J'ai senti que j'avais besoin d'une page blanche, mais sur plein de, par exemple, des caractères que j'avais. J'ai changé sur plein d'aspects, même le travail, etc. J'avais une vision du travail où, moi, si je pouvais travailler 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7, alors que même dans la Genèse, il y a un jour de repos.
Et donc, tout ça a changé dans votre vie?
Oui.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a amené notamment vers cette paix que je travaille.
On peut dire que vous étiez en rupture familiale?
Oh, oui. Oui.
Sur ce plan-là?
Disons.
Où en êtes-vous?
Ma famille est au courant que je me suis fait baptiser. J'ai pu voir à quoi ressemblait un baptême avec la famille, etc., de par les catéchumènes avec lesquels je me suis fait baptiser, et c'était très très joli. Notamment ma sœur, j'ai repris contact avec elle depuis quelques temps, et je lui parle de mon parcours, et elle a pas pu se déplacer à ce moment-là, etc., mais je pense qu'il y a un peu cette demande de, en tout cas nous c'est à la fois on est missionné pour ça. Un peu le côté évangélisé, etc.
Oui, vous voulez annoncer ce que vous avez reçu.
C'est ça, c'est tellement beau, ça m'a tellement apporté.
Même avec un peu trop de zèle, parfois, non?
Bah oui. Il y a beaucoup de gens qui...
En tout cas, ça vous a permis de renouer avec votre sœur, votre petite sœur. Enfin, c'est ça que vous avez eu cette envie.
Quelque chose de très important qu'on nous enseigne, c'est par exemple « Honore ton père et ta mère ». Et il y a plein de gens qui ont des parcours familiaux plus ou moins faciles. Ouais. Et avec Antoine, on se disait, mais
enfin, comment j'honore mon père et ma mère?
C'était ça. Alors que je les respecte énormément, parce que c'est quand même mes parents, ils m'ont donné la vie, etc. Mais comment pardonner s'il est arrivé, il y a des personnes à qui il est arrivé des choses plus ou moins compliquées avec leurs parents, et ça peut être difficile de pardonner. Et en fait, on se sent tellement bien, on est libéré une fois que c'est arrivé. Et il faut penser à quelque chose. C'est honore par exemple ton père et ta mère. C'est pas forcément reprendre contact quotidiennement avec eux. Ça peut juste être envoyer un message. S'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Mais moi, j'ai ouvert mon cœur et je ne suis plus en colère avec ça. Je suis en paix avec ça. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis en paix aujourd'hui, parce que j'ai pu mettre à plat beaucoup de choses dans ma vie. Et j'en ai encore à mettre à plat. Et c'est ça la beauté aussi.
Donc, vous vous sentez un peu plus acteur de la création. Vous honorez votre père et votre mère, ne serait-ce que par la pensée, la prière.
Oui.
Hein, et puis être en paix avec tout ça. Parlons maintenant de Lourdes. C'est votre premier pèlerinage à Lourdes dans le cadre du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette belle famille assomptionniste, et en particulier auprès des personnes en situation de fragilité et de maladie. On a le sentiment, en vous écoutant à plusieurs reprises, que la question de la fragilité, du soin, de l'empathie, de la proximité avec l'autre, c'est assez central, en fait, dans votre relation humaine.
Ça demande... quelque chose qui est pas forcément facile, c'est à la fois mettre son ego de côté, être humble, se mettre au service des autres, et c'est quand je parlais du parcours Zaché tout à l'heure, c'est une question que je me suis posée: comment une personne par exemple qui ne peut pas parler, bouger, comment elle est actrice de la création, alors qu'au final, de par mon parcours de catéchuménat, je me suis rendu compte que il y a rien de plus beau, toutes ces personnes qui se mobilisent autour d'eux, ça ne
et cet
pas
échange qui naît de
mais oui,
la
il
relation.
Nous apporte tellement de manière égocentrique, on peut penser que c'est nous qui les aidons, mais il nous apporte tellement. Je pense à Fabrice là, dont je m'occupe cette semaine, qui a un autisme assez sévère, etc. Il peut pas communiquer en tout cas par la parole, mais ça, il est tellement, il m'apporte tellement, il est hyper actif, etc. Mais ça se voit, il est heureux à la fois d'être là, c'est leur moment dans l'année, et il faut pas se dire que parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler, ils ne comprennent pas. Ils sont heureux d'être là, ils sont heureux que des gens se mobilisent, parce que quand je vois le regard de personnes qui regardent des personnes, par exemple, en situation de handicap dans la rue, hein, à Paris, etc., on peut avoir des fois un regard un peu étrange, un peu surnaturel. Enfin, y en a qui peuvent penser, par exemple, à des sous-hommes, entre guillemets, alors que non, pas du tout. Et Lourdes est vraiment dans cette démarche de les remettre au centre, et je trouve ça magnifique. Je suis très content d'être venu à Lourdes. J'ai rencontré beaucoup de... J'avais peur en venant à Lourdes qu'il y ait beaucoup de têtes blanches. Et au final...
Et puis vous aviez peur aussi, je crois, de la dimension assez touristique, enfin, du c'est monde, ça. Des commerces,
tous
les établissements de services que sont les hôtels et autres, qui sont nécessaires au demeurant.
Qui sont nécessaires, qui sont
pour accueillir toutes ces personnes.
J'avais un peu une vue un peu d'un mauvais œil de tout ce qui était commerce et tout. Je me disais, mais c'est pas forcément le lieu. Et au final, je me rends compte que tout le monde, bien qu'ils viennent en tant que touristes comme pour aider, bah, ils sont là dans la démarche de venir à Lourdes. Donc déjà, c'est magnifique et c'est important de discuter avec eux comme avec des personnes qui aident. Et c'est la beauté de Lourdes aussi. Oui. Une mixité.
Donc vous diriez que pour être dans le cheminement après votre baptême, venir faire ce service et rendre ce service à Lourdes, auprès de Fabrice.
Hein, c'est ça.
Oui, en l'occurrence, c'est Fabrice qui vous accompagne. En fait, ça consolide encore votre démarche.
Ah oui. Bah, de toute façon, je pense que personne, une fois baptisé, n'a plus... Enfin, c'est pas... On est baptisé, on a un tampon, et voilà. Je veux au paradis, je sais pas, il y en a qui disent ça. Par exemple, aller à la messe, c'est quelque chose de central. Et je pense que le pèlerinage est quelque chose de central aussi dans sa foi. Comment... Je pense que c'est le meilleur moment, même si on... Par exemple, quand on aide, faut pas oublier la démarche de s'introspecter, enfin de penser à soi aussi, de se balader dans la grotte, etc. C'est hyper important. Il n'y a pas plus beau moment. J'ai rencontré quelqu'un qui a enchaîné un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a marché pendant 35 jours, qui après a enchaîné avec Rome, et là qui enchaîne avec Lourdes. Et il fait ça, il s'est dit cette année, j'ai envie de les enchaîner. Et je trouve ça trop beau. Et on voit, il est vraiment parti avec plein de questions. Et il le sent et ça se voit. Il est apaisé. Il a pu s'introspecter de A à Z, en tout cas à l'instant T. Et il est vraiment hyper heureux de soi. Et moi, je suis heureux aussi d'être là.
Alors, Raphaël, si on faisait juste un peu le point, vous partiez dans la vie avec peut-être quelques difficultés familiales. Vous réussissez bien dans vos études. Vous devenez opticien. Vous avez une licence, je crois, même.
Oui, c'est ça.
La profession, c'était hyper important. Et vous voici maintenant baptisé après un beau parcours de catéchuménat. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Qu'est-ce qui est devenu central? Qu'est-ce qui a changé complètement dans votre perspective?
Alors, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup au travail, de par le fait que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'aime beaucoup le travail et j'avais une perception du travail où plus je travaillais, plus j'étais content. Et au final, par exemple, en utilisant mon temps libre pour utiliser une autre facette de mon travail, ou en travaillant plus 7 jours sur 7, par exemple, mais en attribuant, par exemple, le dimanche pour la messe, etc. Ça m'a donné un cadre que je compte développer. Notamment, j'étais prédestiné, disons, à partir à l'étranger. Là, c'est vraiment tout.
Vous avez une proposition de travail à l'étranger.
Ça fait un mois et demi qu'on en discute, que j'ai des appels. Et le jour même, c'était dimanche dernier, le jour même où on m'envoie le contrat, on me dit bravo, vous êtes sélectionné. Voici l'offre.
Et vous avez dit non.
Au début, je comptais aller dire non. Et je vais à la messe. Et j'ai le Père Santis, qui est vraiment une super personne, qui me propose d'aller dîner. Et du coup, on dîne, je lui explique, on se parle de nos vies respectives et tout, et je lui raconte que je viens d'avoir le contrat. Et en fait, il me fait comprendre, et c'est, il m'a pas obligé, c'est moi qui ai écouté ses arguments et ça m'a touché profondément, que je veux vivre mon néophyta dans ma paroisse et avoir des bases solides après mon baptême, parce que c'est un socle dans la vie, enfin, c'est vraiment central. Travailler à l'étranger, je peux le faire, Je peux le faire dans 2 ans, comme dans 5 ans. Comme...
Donc vous restez là.
Je reste là. Dans la joie. Hein. Dans la joie, c'est pas un regret, justement. Ma sœur me disait, enfin, faut pas que je regrette le choix, etc. Parce que c'est quand même des belles propositions. Mais je suis en paix avec cette décision. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Et j'ai hâte de voir, par exemple, le Père Santis m'a parlé d'un livre, Les Confessions de Saint-Augustin. Il m'a dit, lis ça. C'est parfait pour quand il voyait la vie, par exemple, des jeunes d'aujourd'hui, etc., la société d'aujourd'hui. Lise ça et tu vas voir que vous n'êtes pas seul. Tout le monde n'a pas eu une vie directement, avec un minimum de péché, sans la vie de couple, etc. Et Saint Augustin est le parfait exemple et je l'ai lu et j'ai trouvé qu'en fait, chacun pouvait trouver, bah, par exemple, ses livres, ses versets, ses psaumes. J'ai quelqu'un dans l'église dans ma paroisse qui aime beaucoup les psaumes, il est fan de ça, il se retrouve beaucoup dans ça. Chacun trouve son petit élément qu'il préfère.
Bon, ben voilà votre conseil de lecture. Le conseil de lecture de Raphaël, en cette fin d'émission, c'est lire les Confessions de Saint-Augustin.
C'est ça.
Tout un programme. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite un bon pèlerinage à Lourdes.
C'est ça.
Saluez bien Fabrice pour nous, tout votre entourage, tous ceux qui vous ont accompagnés. Et bon vent pour la suite.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Présence à Lannemezan 92.2
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Attentat à Jérusalem-Est ce matin, 6 personnes ont été tuées par 2 tireurs palestiniens abattus.